Tata boom!
Tout le monde, bienvenue dans Tata Poum, le retour, et bienvenue en 2026. Nouvelle année, nouvelle saison, nouveau générique et nouveau présentateur éphémère. On changera tous les mois de présentateur. Pierre nous a quitté temporairement pour se retirer dans sa longère sur les collines de Paris. On a mis longtemps à digérer la nouvelle. Que faire sans notre phare, notre boussole? On a hésité à arrêter. Mais bon, laissez les auditeurs écouter du rap ou pire, du rock français, plutôt crever, nous a dit Guillaume. Alors, on met le couvert pour une nouvelle saison. On retrouve autour de la table l'équipe habituelle, Mathieu, Cédric, Héloïse, Guillaume, et on accueille une petite nouvelle, Nina, pour la nouvelle saison. Guillaume se sent encore plus seul autour de la table, il se dit encore merde, une de ces gauchos qui aiment le rock français, mais bon, ça va aller Guillaume, t'inquiète. Alors on reprend la même formule, quatre chroniques pardon de musique rock'n'roll, musique qui claque, rythmée, qui font débat on l'espère. On parlera ce soir de Jessica 93, Blanco Teta, BBC et Guise. Le tout rythmé est mixé par Bibi Marion qu'on retrouve toujours autour de la console. Pour ma part, je vais essayer d'être à la hauteur de Pierre et j'ai bossé mon accent pendant les vacances, on verra ce que ça donne. Je sais que tu nous écoutes Pierre, on t'embrasse. Alors on va démarrer l'émission par Jessica 93, un groupe solo de Geoffroy Laporte qui nous vient de Bondy dans le 9-3. Son nouvel album sort sur le label parisien Bonne Bad, chanté en français. Ouf, se dit Guillaume. Et c'est Mathieu qui va nous présenter le groupe. Il a choisi comme premier morceau Florence Ray. On démarre.
We'll be right back.
Alors c'est Mathieu qui va nous présenter ce groupe.
Ben voilà.
C'est vrai qu'avec le micro, c'est plus simple quand même. Donc voilà, ce 666 tours de périph, c'est le sixième album depuis que Geoffroy Laporte a démarré sa carrière solo sous le nom de Jessica 93, ou Jessica 93, ou Jessica, en fait, comme on veut. Je crois qu'ils sont, ils s'en fichent un peu. Le 93, c'est juste qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Arnaud, il est originaire de Bondy. Et avant Jessica 93, il a œuvré dans plein de groupes. On citera Besoin d'aide, les Louise Mitchells, le Red Tsar Barnaïm, ou encore Trotsky Nautique. Et effectivement, un moment, il s'est dit, tiens, j'ai envie d'y aller tout seul, faire autre chose. Et donc, si le projet a globalement été en solo depuis le début, il y a eu une période pendant laquelle Geoff s'est entouré d'amis sur scène, alors parmi lesquels on a retrouvé David Snug de Trotsky Nautique, justement, ou Eric Brica de Prise Rapide. Et il faut avouer que pour les aficionados, le résultat n'était pas forcément convaincant. On sentait qu'on s'éloignait un peu du son, entre guillemets, Jessica 93. Et donc, 8 ans après le dernier album en date, Guilty Species, qui avait justement été créé dans l'optique d'être en version groupe sur scène, Jessica 93 revient, toujours en solo, mais là avec l'optique jouer les morceaux de l'album en solo aussi. Et cet album, il est intégralement en français, ce qui était pas vraiment le cas pour les 5 albums précédents. Et il y a beaucoup moins de réverbération dans la voix, histoire de se faire enfin comprendre. Autre changement, Jessica, il est passé de Teenage Menopause à Born Bad. Donc ça, il nous l'avait expliqué, vous pouvez écouter les explications dans Constroy, le Constroy du 23 novembre 2025, où on avait passé 2 heures sympathiques, où il nous avait même fait un petit live, c'était plutôt cool. Et cet album, il a été enregistré chez Arthur Satan, donc le chanteur de JC Satan, en 2 fois, en prise direct, enfin c'est des conditions un peu roots, mais Geoffroy était très content de ce retour aux bases. L'album, il a aussi une pochette qui est assez intéressante, puisque là effectivement on voit le périph, et c'est une photo que lui-même a prise juste à côté de la station, qui est un peu sa deuxième maison, la station Gare des Mines, qui est Porte d'Aubervilliers. Musicalement, parce que on est là pour parler musique, hein, mais il s'agit de présenter quand même. Ben on revient à ces lentes montées avec des boucles qui se succèdent et qui sont sur scène encore plus impressionnantes que sur album, puisque sur scène on le voit créer sa boucle, passer de la basse à la guitare, créer d'autres boucles. Enfin c'est un jeu de scène assez impressionnant, mais ça marche aussi en version studio. Et on retrouve le cold grunge post-punk, on sait pas exactement comment définir la musique de Jessica 93, sur lequel les textes, qui sont bien sombres, hein, on n'est quand même pas ici pour s'amuser, ça empêche un peu tout espoir, parce que en 2026 je vois pas comment on pourrait avoir de l'espoir, mais ça c'est mon côté optimiste. Selon moi, cet album, il est très réussi, il est presque rassurant, tant on a attendu, puisqu'il y a eu quand même 8 ans entre les deux albums, et pour moi il reste plus qu'à le revoir sur scène pour être totalement en extase.
Cédric, est-ce que tu as déjà vu sur scène, et est-ce que tu veux faire des tours de périph avec Jessica?
Non, je l'ai pas vu sur scène, mais j'ai très envie de le voir, parce que c'est un album qui était attendu, et je trouve que le projet est hyper réussi, quoi. C'est étonnant de la part d'une seule personne, d'un seul homme, enfin, pour faire ça. Il y a un côté un peu artisanal qu'on retrouvait chez Colombet, qu'on avait souvent bien aimé ici, mais beaucoup plus abouti ici. On est vraiment dans les années 80, 90, hein, comme tu l'as dit, en style, en new wave, cold, etc. Moi, j'ai bien aimé les arrangements guitare-basse, la boîte à rythme qui passe crème. C'est pas si courant quand même. Et cette ambiance vraiment très sombre, hein, qui se dégage de ces textes vraiment écrits au scalpel et tranchant, sec. Je trouve que la voix est vraiment bien mise en avant. Tu l'as dit, elle est bien languissante, langoureuse même presque. Il y a un boulot de production de Satan qui est vraiment magnifique sur cet album. Et bon, ça dépeint régulièrement l'univers de la drogue, mais c'est pas glauque, je trouve, dans les textes. C'est surtout un disque sur la passion, finalement, une sorte de poésie noire autour de la révolte romantique radicale, comme sur ce titre de Florence Ray, au destin tragique. On va loin, je trouve, dans cet album, dans la mise à nu, dans le dépouillement. Si on devait faire un spectre du rock contestataire punk français, on aurait sans doute les Vulves Assassines à un bout du spectre et Jessica 93 de l'autre côté, quoi. Et tout ça est très bien. Et puis alors, je sais pas vous, mais le titre génial, La colline du crack, qui a fait pas mal parler de lui avec un clip qu'il faut voir, minimaliste, on va dire. Je trouve que ça sonne un peu Indochine, mais que ça va bien quand même. Écoutez, ouais, c'est assez proche d'Indochine.
Ah, c'est la première fois qu'on parle d'Indochine ici. Hein.
Pas du tout. J'en ai déjà parlé. Bon, voilà. Et puis bon, voilà, un type aussi qui reprend Pornographie, ça peut être qu'un homme de goût, quoi, finalement, donc super album.
Guillaume,
j'avais même pas remarqué que c'était
rock français. T'en dis quoi?
Eh ben, c'est une théorie que je soutiens depuis longtemps. Plus un groupe de rock français aura tendance à s'éloigner du punk rock, meilleures ses chances seront de faire quelque chose d'intéressant. Ainsi en est-il de Jessica 93, le nouveau chouchou de la critique rock française, hein, il y a une petite hype autour de lui en ce moment, j'ai l'impression, qui, sans être sensationnel, se montre suffisamment sérieux et bien fichu pour s'écouter sans déplaisir. La sensation sonore de sa dark pop aux forts accents cold wave fait le job, sans doute un peu trop sagement comme tout bon groupe français qui se respecte, mais sans qu'une amatrice ou un amateur de ce genre d'univers n'y trouve à redire. De longues plages emplies d'un son saturant à la rythmique répétitive s'accompagnent de la voix indolente du chanteur Laporte et ça forme le cœur en fait de la plupart des compos. On est encore loin de ce que peut atteindre un groupe comme A Place to Bury Stranger ou dans le genre de projet solo ce que fait Soft Moon par exemple, mais parce que en se jouant en solo il manque un peu le côté accumulation de harmonique que produit plusieurs musiciens ensemble, et il y a un côté familique à cette rythmique un peu uniforme à mon goût. Et ainsi, c'est pour moi la limite à cet univers sonore qui séduit par son style de dark cold wave, hein, j'y étais plus sensible notamment par rapport à ce qu'on va entendre après avec Guise, mais le côté un peu trop plat, trop près des passages et des boucles se fait trop entendre et a déçu mon écoute au final.
On va terminer par Sainte-Héloïse. Tu vas nous le sauver?
Eh bien, sans vraiment grande surprise, moi je partage plutôt l'enthousiasme de Cédric et de Mathieu. Non, plus sérieusement, j'ai beaucoup aimé cet album grunge, cold wave, shoegaze dans sa composition, mais surtout un brin punk dans sa démarche et rétif aux étiquettes. 666 tours de périph', c'est presque autant de boucles et de couches de guitare dont s'en faire une musique planante, roborative et hypnotique, dans laquelle se déploie en français une poésie assez crue qui emprunte parfois la vulgarité du rap pour parler de police qui tue, par exemple sur le morceau Florence Ray, de grands remplacements, d'amour sur le titre La colline du crack dont a parlé Cédric, de comprimer ses câbles ou encore de l'enfer que sont les autres. Jessica 93 chante presque comme il parle, racontant des histoires avec des gros mots et son petit matériel au gré de références impromptues, comme par exemple à l'émission d'histoire L'Empire n'a jamais pris fin sur Blast, ou encore le jeu vidéo Super Robotector sur le grand remplacement. Un seul regret peut-être, celui de parfois peiner à discerner et comprendre les paroles malgré les efforts qui ont été déployés en ce sens, mais autrement j'ai été tout à fait convaincue.
Oui, bien. Soft Moon, tu parlais du groupe qui a disparu, Guillaume.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il s'appelle le gars, je crois, José Luis Vázquez.
Ouais, ils sont tous morts d'overdose. Hein.
Ouais, je sais. Ouais, mais.
Comme quoi, ça marche le.
Une filiation avec certains rebelles dont parle. Comment il s'appelle le mec à Florence Ray. Audrey, on peut pas.
Bon, on enchaîne avec un deuxième morceau que tu nous as choisi, Mathieu. L'Empire n'a jamais pris fin. We'll be right back.
On va quitter le 93, comme dit Cédric, pour prendre la direction de Buenos Aires en Argentine avec le quatuor Blanco Teta qui sort son deuxième album sur l'excellent label suisse Bongo Joe. C'est une des révélations des transmusicales de Rennes 2023 et qui est réputée visiblement pour leur prestation scénique assez épique. C'est Cédric qui va nous en parler et t'as choisi... Ah, c'est Héloïse, pardon, excuse-moi. Héloïse qui a choisi le titre La Débâcle, pardon. Nadie se entera, esto es cualquiera. Ya no me importa, soy esclava de tus tetas. Fugitiva, es un escándalo. Tú si te quitas, hay un incendio. Soy la debacle en la plaza de mi pueblo. ¿Y a quién le importa? Si esto es cualquiera. Hago canciones que no escucha ni mi mierda. Ya no te puedo llevar a comer media luna. No te puedo llevar a comer media luna. Todo tan caro, todo tan facho, todo tan raro. Yo no quería unirme a tu clan de porquería. No me salía, decía palabras que no entendía. Yo no quería unirme a tu clan de porquería. Alors, Héloïse, que peux-tu nous dire sur ce groupe Blanco Teta Argentin ?
Alors, formé à Buenos Aires en 2017, Blanco Teta est un quatuor punk noise composé de trois musiciennes d'origine argentine, mais dont une seule, en fait, vit en Amérique latine. Josefina Barex au chant, Carola Zelachi à la batterie et Violeta Garcia au violoncelle, ainsi qu'un bassiste d'origine colombienne qui lui aussi vit en Espagne. Après trois premiers albums, TVL 3 en 2017, TVL 35 en 2020 et Rompe Paga en 2021, le groupe revient avec un quatrième disque, La Débâcle de las Divas, paru en juillet 2025. Et dans une Argentine dominée par la figure d'un taré libertarien avec sa tronçonneuse, fermement décidé à en finir avec toute forme de solidarité organisée, ces rejetons survoltés du punk sud-américain font figure de véritables antidotes au désespoir et à l'amorosité ambiante. La controverse commence d'ailleurs dès le nom du groupe, qu'il est possible de traduire par « Saint Blanc », celui-ci faisant référence à l'interdiction en Argentine de faire du saint nu au topless, de sorte que toutes les filles ont un triangle blanc sur la poitrine à la fin de l'été, à tel point que Blanco Teta est devenue une expression péjorative pour parler de quelqu'un de très pâle. Enregistré dans la spontanéité et l'urgence, le disque cause de l'obsession du capitalisme pour la jeunesse et la nouveauté, qu'il dénonce à la faveur d'une musique crue, mêlant rock expérimental, noise et punk, et dans laquelle le traditionnel combo basse-guitare-batterie s'est vu opportunément transformé en basse-violoncelle-batterie et enrichi de sonorités électro. Il en résulte un album tout autant incisif que décalé, dans lequel les morceaux rentrent dedans, succèdent à des morceaux plus adoucis, mais sans jamais rien perdre de son fracas. Il semble en faire quelque chose de brut, qui emprunte à l'énergie et à l'agressivité du punk, mais aussi de dansant et de satirique, rappelant parfois les codes du cabaret, le groupe se livrant sur scène à de véritables performances dont Mathieu pourra peut-être nous parler, lui qui a pu les voir sur scène. En définitive, La Débâcle des Divas est un disque pour les divas prolétaires, les divas flexbus, trop fauchés, trop fatigués, trop en retard, mais qui veulent faire du bruit et de la musique expérimentale. Pour ma part, j'ai trouvé ça brillant.
Guillaume, brillant ?
Brillant et pas du tout brillant en même temps. C'est tout le paradoxe de ce disque pour moi, qui ne rentre un disque qui ne rentre pas vraiment dans les catégories des musiques que j'écoute. Hein. Le punk fusion est un genre qui m'a toujours rebuté. En termes de répulsion, ça doit atteindre le même niveau d'aversion qu'éprouve Cédric pour mes plus belles découvertes de dark metal. Aussi étais-je des plus sceptiques au moment de sa découverte, mais voilà, ma conscience professionnelle de critique rock à cause commune m'impose de vous livrer un avis impartial. Le voici, c'est de la merde. Mais non, je plaisante. Non, qu'en dire de sérieux. C'est le principe même des musiques qui mélangent différents styles. Leur entremêlement provoque cafouillis sonores qui perturbent autant qu'ils peuvent séduire, selon qu'on sait y faire ou pas. Ajoutons que l'écoute de la langue espagnole, hein, peu commune ici, j'ai pas trop le souvenir d'avoir parlé de groupe en espagnol à Tata Poum, ajoute encore un peu à la confusion. Si le rythme punk, mais définitivement insupportable par son contretemps constant et condamne en soi l'album, quasi tout le reste se révèle à l'inverse intéressant. D'une richesse et d'une inventivité luxuriante, cette débâcle de la divas nous plonge dans un univers pléthorique où les trouvailles sonores foisonnent et changent aussi variablement que les morceaux. Cette surabondance d'un punk bruitiste matiné de multiples sons et distorsions se révèle un vrai plaisir d'écoute en fait. Les qualités sont telles que je ne serais pas loin de penser que qu'il s'agirait là d'un grand disque. Tous les trop rares morceaux où la cadence punk est absente, comme sur Sin Nafta, Exorcizada, sont superbes. Malheureusement, dès que l'insupportable cadence se met en branle, tout s'effondre et le dégoût reprend le dessus.
On avait parlé d'Amarea, si tu te souviens, je sais plus quand c'était l'année dernière, et c'était très compliqué à prononcer pour moi en tout cas. Cédric ?
Bah, alors moi c'était un peu l'inverse de Guillaume. Moi j'étais plein d'enthousiasme au début. Je me disais bon super, un groupe argentin qui nous sert pas du rock national lourdingue ou du métal pénible. Tous ces groupes argentins toutes burnes en avant et donc enfin un groupe qui va casser les codes virilistes. Et alors là j'ai écouté et là je suis tout de suite moins séduit quoi. Même plutôt une grosse déception. J'ai commencé d'ailleurs par regarder des concerts avant d'écouter. Et ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour moi. D'une part, bon, j'aime pas trop les enfin, j'aime bien quand il y a de la mélodie, quoi, en gros. Et là, bah, je suis pas trop servi. J'aime pas quand c'est cacophonique. Et je trouve que les concerts, c'est un peu du grand n'importe quoi, avec une imagerie qui est certes hyper soignée, mais je trouve assez pauvre finalement musicalement et qui se contente souvent de hurler et de jouer la pause, quoi. Alors le violoncelle, bon ok, mais pourquoi personne met de violoncelle? Ben parce que ça, quoi, finalement, quoi. Des fois, il y a une bonne raison. Moi, je sais pas, bon, ça m'a fait, si je devais dire un groupe des années 80, ça me faisait un peu penser à ZZ Sputnik, quoi, finalement. Oh. Voilà, une sorte de pause. Bon, je me trompe James, peut-être, quand même. Hein. Je vois bien qu'il y a un truc militant sympa, mais j'ai l'impression que ça sert moi plutôt à des enfants d'école de musique qui sont en canaille. Un peu comme tous ces étudiants héritiers qui ont fait des écoles d'art aux États-Unis puis qui plongent dans l'art brut parce que c'est l'air du temps. Donc voilà, je suis vraiment passé vraiment très très loin de cet album, quoi. Et un peu déçu d'ailleurs d'être passé si loin.
Mathieu, qui les a vus alors?
Ouais. Alors je dois avouer que j'aurais jamais pensé à citer ZZ Sputnik en parlant de Blanco Teta. ZZ Sputnik avait quand même à peu près zéro au niveau politique. Hein. C'était quand même juste de la grosse rigolade. Voilà. Moi, effectivement, j'ai vu deux fois le groupe sur scène et je dois avouer que les deux fois j'avais été déçu parce que il y avait une présence quasi permanente d'un vocodeur et c'était ben c'était insupportable, c'était du vocodeur donc c'était insupportable. Et ben là en fait cet album il m'a un peu rassuré parce que je comprenais pas pourquoi il y a plein de monde qui me disait mais tu vas voir sur scène c'est super bien, c'est un super groupe. Donc sur scène c'était pas bien. En revanche j'accroche plutôt à cet album, je trouve plus réussi et efficace que tout ce que je pouvais craindre, y compris quand c'est plus lent. Guillaume t'a cité le morceau Sin Nafta. Moi, ça m'a plutôt donné envie de me pencher sur les enregistrements précédents du groupe. Mais je ne sais pas si je reprendrai le risque d'aller les voir sur scène.
Nina, tu termines ?
Ouais. Alors, Blanco Teta, c'est punk, c'est féministe, c'est queer, c'est énervé et le tout en espagnol. Moi, je me suis dit, franchement, que demander de plus ? Je suis donc allée écouter cet album les yeux fermés et j'ai franchement pas été déçue par la promesse du groupe. Là où je pensais découvrir avec certains grands plaisirs un groupe de punk disons classique, j'ai plutôt découvert une pépite punk expérimentale avec un violoncelle électrifié ultra noisy, des rythmiques variées et dynamiques, un chant puissant avec un flow inépuisable, presque rappé parfois. Bref, Blanco Teta, c'est un cocktail détonnant qui m'a largement séduite. J'ai très hâte de leur prochaine tournée européenne pour les voir en live, car malgré ce que vient d'en dire Mathieu, j'imagine que ça doit quand même valoir le détour.
Eh ben, super, moi tout le monde s'en fout de mon avis, mais j'ai trouvé l'album vachement bien. deuxième titre, on va écouter Metalera. Oh, c'est plutôt classe quand même de se dire qu'on peut faire avec un violoncelle du bruit comme ça. Cédric, t'es dur avec cet instrument. on va continuer en Italie là, et on se dirige à la petite ville de Lombardie, Castel Goffredo. On veut découvrir le groupe BBC, qui est un trio de garage qui a été formé en 2015 et qui sort son nouvel album sur le label transalpin Wild Honey Records. Alors, est-ce que les Italiens savent faire autre chose que des pâtes et des pizzas? C'est Guillaume qui va nous présenter le groupe, et tu nous as choisi. Ça fait quoi que ce que tu veux dire ou pas? It's all about the fast music. Allons-y. Guillaume, plutôt pâte ou pizza?
Je sais pas quoi va te répondre. Parce que c'est très bizarre ce truc. Connaissez-vous les gizmos? Les gizmos? Non? Rien de grave.
Ça me dit un truc, quoi. Gizmo.
Rien de grave.
C'est le mogoy.
Oui, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, c'est le mogoy.
Ouais. Cependant, sachez que ce groupe de seconde zone, voire de troisième zone, à mon avis, hein, vu l'écoute que j'en ai fait, de punk garage de l'Indiana, formé en 1976, séparé en 1977, qui n'a laissé qu'une trace marginale dans l'histoire du rock, mais dont on retiendra aujourd'hui à l'heure trumpienne le prémonitoire America First, est à l'origine de cet album Standing Can Be Alright. Le trio italien qui le forme, le BBC, en parle comme en effet comme un tribute à Gizmo. L'idée serait, par là, de rendre hommage au Midwest Garage Punk US, parce que, accrochez-vous, vivant dans la plaine du Pô, nos Italiens partageraient avec les mecs de l'Indiana cette particularité géographique d'être situés également dans une grande étendue de terrain sans relief ou légèrement ondulé, selon la définition du dictionnaire du mot « plaine ». On trouve l'inspiration comme on peut, en tout cas c'est l'explication qu'ils donnent à leur tribute. Toujours est-il que cet album est sorti chez Wild Honey Records, un label italien spécialisé spécifiquement dans ce genre de musique, qui a déjà fait paraître leurs trois précédents, et la formation a été créée en 2015, si je me trompe pas. Et donc un hommage au garage punk du Midwest. Ça tombe bien, on est un peu familiarisé avec le genre ici à Tata Poum, puisque nous avons régulièrement chroniqué les albums de Why Bother, référence en la matière s'il en est. Cependant, on comprend vite à l'écoute que tout rapprochement s'arrête là, car autant les gars de Mason City savent y faire avec la guitare fuzz pour donner un style à leur compo et possèdent un sens de la mélodie imparable, autant nos italien ont toutes les peines à s'extirper d'un garage punk mélodique sans attrait. L'album se révèle en effet des plus quelconques. Sans grande singularité, il est à oublier à peine écouté. Et pour autant, il n'a rien d'infamant en soi. Des intros, des modulations de tempo bien faites, de la variété suffisante d'un titre à l'autre, une exécution technique qui laisse entendre qu'ils ne sont pas français, un chant pas trop agaçant, les qualités de base sont là, mais, et c'est tout le problème, cela s'arrête là. Les morceaux sonnent d'un grand ordinaire, sans grande personnalité, c'est une musique à qui il manque du caractère.
Ensuite, c'est Héloïse qui va nous en parler.
Sans grande surprise, mon avis sera quelque peu différent de celui de Guillaume. Rien d'infamant, aucune singularité. Comment rebondir après cela? Bon, pour ma part, je dirais que nous croyons quasiment tous avoir du garage. On vend énième enfant terrible du rock'n'roll, version crasseuse et surtout précurseuse du punk. Entre nous, la plus intéressante d'entre toutes. Et pourtant, BBC, interprète outre-alpin du style formé juste après le lycée, fait un pas de côté, n'en déplaise à Guillaume. En hommage à la chanson presque éponyme de The Gizmo, Standini Can Be Alright sonne nasillard et crasseux comme du garage des années 60, avec un petit quelque chose en plus, tirant vers le folk, le punk rock ou encore le mélodique, déclinant sa propre interprétation de la musique lente ou rapide à travers un triptyque accrocheur. Il s'en infère un album léger, sautillant et dansant, qui regorge de rebondissements et de refrains accrocheurs et que j'ai pour ma part trouvé particulièrement enthousiasmant.
Bon, Guillaume, il fait l'amour. Mathieu?
En fait, ça va être le retour des deux papiers ronchons contre le reste du monde, je pense. Parce que moi, à l'écoute de cet album, ce que je me suis dit, c'est que quand les morceaux sonnaient egg punk, bien plus que garage punk. Moi, je comprends pas cette appellation garage punk pour ce groupe. Donc voilà, quand c'est un peu énergique, ça va. Mais quand c'est mou, alors vous prenez Memories of Another Life, c'est plus difficilement soutenable. Parfois, ça part aussi du côté indie pop, mais comme le morceau Angel, et ça a absolument aucun intérêt. Alors, effectivement, on peut retenir l'idée du triptyque It's all about the slow music, it's all about the music, it's all about the fast music. Donc ça, c'est assez rigolo, ça marche à peu près, mais pour le reste, c'est 37 minutes, ça fait un produit de consommation courante, aussitôt écouté, aussitôt oublié.
Nina, poubelle ou tu le gardes?
Non, moi j'ai adoré. Alors de mon côté, j'avais eu un coup de cœur pour ce groupe quand j'ai entendu pour la première fois il y a quelques années, car j'y ai trouvé tout ce qui me plaît. Des riffs efficaces, des mélodies entêtantes, un tempo rapide et un côté egg punk et garage à la Jay Retard, bref, une valeur sûre à mes yeux. J'avoue avoir eu un peu peur quand j'ai lancé l'album en entendant le premier morceau, qui a une inspiration très blues. J'ai failli croire qu'ils avaient fait une croix sur ce que j'avais aimé chez eux en premier lieu, mais en fait, après plusieurs écoutes, j'ai compris que cet album est bien plus varié que les précédents, et que c'est une belle évolution pour le groupe après 5 ans d'absence. Il a réussi à garder son énergie brute sur certains morceaux, tout en sachant se réinventer en proposant des morceaux plus posés et moins dans l'urgence, mais tout aussi efficaces.
Bon, Cédric qui nous faisait des lasagnes, il rajoute quelque chose.
En arbitre impartial, je donne le point à Nina et Héloïse.
Ah bravo. Bon, on termine l'émission par Guise. Attendez, oh là là, j'ai failli cramer un morceau là, le deuxième morceau de BBC, donc c'est You, pardon.
Ça aurait été dommage.
Bon, on termine par Guise pour terminer l'émission. C'est un groupe formé en 2016 à Brooklyn. C'est leur troisième album, pardon, et il sort sur le label Partisan Records. C'est un groupe qui figure dans le top 5, voire le top 3 d'absolument toute la presse française et internationale.
Alors, on va voir.
Ouais, parmi les Inrock.
Ah oui, ah bah c'est sûr que c'est de la qualité alors.
On sait que tu vas nous le défoncer, mais c'est pas toi qui commence. C'est Nina qui va nous présenter le groupe et t'as choisi comme premier titre Nina Trinidad. Alors Nina, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Guise?
Alors, t'as dit que c'était le troisième album, moi j'ai trouvé que c'était le quatrième.
J'ai hésité parce que sur le Discogs, en fait, c'est assez complexe de savoir si c'est un album ou pas, mais c'est peut-être leur quatrième.
Peu importe. Donc, Getting Killed, c'est le quatrième album du groupe de rock new-yorkais Guise. Alors moi je connaissais pas ce groupe et apparemment j'ai été passée à côté de quelque chose puisqu'en faisant mes recherches j'ai découvert que toutes les critiques étaient unanimes pour encenser Guise et son nouvel album et je dois avouer que je comprends pas un tel engouement. Alors oui c'est sûr que les morceaux sont beaux, qu'il y a un côté planant, empreint de nostalgie. En fait ça m'a un peu fait penser à une bande son de voyage, à une bande originale de road trip quoi. Donc on est quand même sur une atmosphère assez précise et le groupe réussit à nous plonger dans son univers. Mais à l'instar de la manière de chanter du chanteur Cameron Winter, on reste sur une même énergie tout du long et les morceaux se suivent et se ressemblent. Force est de reconnaître qu'il y a un truc dans ce chant à la Jeff Buckley ou à la Julian Casablancas, mais au bout d'un moment, ça devient un peu agaçant ces trémolos nasillards. Moi, j'aurais aimé entendre ce chanteur et ses musiciens s'énerver un peu. J'aurais aimé de la puissance, de l'intensité, comme dans le titre d'ouverture qu'on vient d'entendre, Trinidad, qui aurait pu laisser présager un peu plus de brutalité pour cet album. Au final, Guise mélange les genres et c'est ça qui semble séduire autant de gens. On a du blues, de l'indie rock, de la folk, du rock psyché. Mais au final, ça sonne pas très neuf. Et j'ai rien contre les trucs qui sonnent pas neufs, à condition que ce soit efficace dans l'énergie et ou dans les émotions que ça peut susciter. Et là, je dois avouer que j'ai pas ressenti grand chose. Bref, je suis bien curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, savoir si je suis à côté de la plaque et que je suis passée totalement à côté de ce groupe qu'on présente pourtant comme la révélation de l'année 2025.
Ouais Mathieu, moi la voix, tu dis Nina, j'ai pensé à Thom Yorke énormément sur plein de passages assez lents de l'album. Et donc Mathieu, rebondis.
Alors moi je rebondis, tout comme Nina, jusqu'alors je ne connaissais pas du tout ce groupe, hormis avoir vu effectivement passer des listes en disant oh, c'est le meilleur album de l'année, c'est le meilleur concert de l'année. Alors bon, au niveau de l'album, pour moi ça démarre comme du Dr. John. Le morceau qu'on vient d'écouter, mais qui dérape un petit peu en termes d'énergie. Et en fait, dès le deuxième titre, ça devient mièvre. Et particulièrement au niveau du chant. Et le chant, moi j'ai lu quelque part plusieurs comparaisons. Comparaisons à Thom Yorke, Radiohead, ou Echo and the Bunnymen. Et en fait, pour moi, je trouve que c'est pas faux. Et c'est pas du tout positif chez moi de comparer Radiohead ou Echo and the Bunnymen. En fait, cet album, c'est surtout rapidement lassant, voire insupportable. Franchement, il y a un morceau au titre en français, j'aurais même pu le relire, au pays du Codigo, je sais pas quoi. Ça finit sur 6 minutes 37 de souffrance, cet album. Alors, moi, je dis, hein, j'ai cité Dr. John pour commencer. C'est bien beau d'aller chercher des belles références, mais c'est casse-gueule. La preuve avec cet album qui donne simplement envie de retourner aux sources.
Et alors, Guillaume, les sources.
Bon, je récupère le micro et je me lance en vous disant mon avis. Pour moi, ce groupe est assez bizarre. Hein. Il mélange une sorte de néo-psy-folk à tendance indie-rock avec une rythmique parfois groovy comme sur 100 Horses, parfois plus pop avec Cobra. Et en fait, l'album se révèle agréable en fait d'un bout à l'autre, c'est ma conviction après l'avoir écouté plusieurs fois. Un univers cohérent réunit l'ensemble des compositions avec toujours un peu la même formule effectivement aussi. La voix traînante et légèrement nasillarde de Cameron Winter se lance dans une balade douce qui finit au bout d'un moment par une envolée lyrique qui accompagne tout du long une ample instrumentation. Et c'est efficace, il y a rien à dire. Le côté est c'est même agréablement agréable. le côté cotonneux rend agréable le côté berceuse. Il y a un côté berceuse dans cette musique. Et du reste, je les rattache à d'autres groupes actuels hein, qui sont aussi dans cette même veine, comme Wednesday ou Gliders, où sur une même base de ballade rock, ils développent des morceaux soyeux et riches instrumentalement. Alors, je sais que l'album, comme tout le monde a été salué largement par la critique. Toutefois, je n'ai pas été réellement envoûté par lui. Autant je leur reconnais une belle facture générale, tout autant je n'ai jamais eu la sensation d'avoir affaire à un disque particulièrement marquant. Getting Killed a beau être plaisant d'un bout à l'autre, je ne parviens pas à lui reconnaître une grande valeur. Je pense qu'il va pas demeurer très longtemps. On va l'oublier.
On va pas l'oublier, Cédric.
Moi, c'est comme tout le monde, je connaissais pas. On doit vivre dans un autre monde.
Bah oui, finalement. Parce que
tout le monde
si on l'a pas vu passer l'année dernière, quand même, on a de la merde dans les yeux.
Ouais, je n'ai jamais vu ça. C'est clair que ça déroge un peu à ce qu'on écoute sur Tatapoum, quoi, de fait. Mais si on fait ce pas de côté, moi, je suis plutôt de l'avis de Guillaume. Je trouvais ça assez agréable à écouter. Bon, pas exceptionnel, mais vraiment agréable. C'est vrai que ça renvoie à plein de choses. J'ai cité plein de sources. Finalement, c'est vrai que du coup, ça, on a du mal à définir une originalité. Quoi. Moi, je pensais aussi un peu à Violent Femme dans la manière de chanter au début. Quoi. Bon, chose comme ça. Mais j'ai même presque plus apprécié le projet côté un peu nasillard, ouais, comme ça, un peu dépouillé. Quoi. J'ai bien apprécié aussi le projet solo finalement du chanteur. Parce que j'ai été écouté un peu plus là, qu'il a fait l'année dernière, mais qui est encore plus calme. Donc peut-être que ça vous énervera encore un peu plus. Moi, je trouve que plus l'album avance, plus il est intéressant. J'ai beaucoup aimé le dernier titre, pour le coup.
Ah oui, tu t'es pas endormi, c'est ça.
Le final du dernier titre, d'ailleurs, ouais, qui est un peu une sorte de feu d'artifice, ouais, quoi. Okay. Alors, je me suis quand même un peu interrogé sur le titre qu'on va écouter après, Taxis. Là. Alors, on sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, mais j'ai bien peur que ça vienne rejoindre un peu la litanie des chansons anti-impôts depuis les Beatles avec Taxman, en passant par ce pauvre George. Son titre Je suis l'État qu'on retrouve sur la nouvelle compilation Wiz de Born Bad là, qui vient de sortir, qui est super. Et voici Johnny Cash avec After Taxis, ou encore l'inoubliable Florent Pagny et sa liberté de penser. Bon, par les temps qui courent des tricotages des services publics, c'est peut-être pas ce qu'on fait de mieux de ce point de vue là, mais bon, dans l'ensemble, je trouve que c'est un album assez agréable à écouter, quoi.
Moi, bah, je suis assez d'accord. Je trouve quand même que c'est un album qui se mérite, et il faut être. Alors, si on n'aime pas la première écoute, c'est peut-être dur, mais il faut, comme tu le disais, Guillaume, l'écouter plusieurs fois, et le côté cotonneux est assez agréable. On va écouter le côté cotonneux sur Taxis, peut-être. Mathieu a encore deux ou trois choses à nous dire, je crois, sur le...
Oui, moi je pense que ça évolue très très mal cette émission. C'est quand même Cédric nous a cité dans la même émission Indochine et Florent Pagny.
Et Zizik Spoutnik, s'il te plaît.
Et Zizik Spoutnik, oui, mais moi j'aime bien Zizik Spoutnik, donc je vais pas t'en vouloir. Et puis franchement, ce que tu viens de dire sur Guise là, Guise, il y a que le papyronchon habituel, hein, Guillaume et toi qui avait apprécié. Moi, je vais te donner, franchement, ma place à côté de Guillaume. C'est pas possible.
Non, mais Mathieu, il y a moi qui ai aimé aussi.
Ah oui, mais
je sais qu'on s'en fout, mais
non, mais c'est
moi j'ai bien aimé.
Alors toi
c'est pour
tu compteras. Tu compteras la prochaine fois, hein, parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas expliqué à nos auditeurs, c'est que Tata Poum évolue et qu'on va changer de MC à chaque fois.
Oui, il en reste encore une pour moi et ensuite c'est Cédric qui va enchaîner.
Et ça va être bien ça, que comme ça tu pourras parler, tu pourras dire que tu aimes Guise autant que tu veux.
Bah ça dépendra de la sélection.
À ta Guise.
oui, papy ronchon, c'est bien. Et donc, là, on arrive à la fin, tranquillement.
Ouais, on va terminer notre 67e émission là de Tata Poum. Alors, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais ça s'est quand même égrené au fil de l'émission. Mais on a quand même voyagé au pays des fachos parce qu'on a fait États-Unis, Argentine, Italie, France. C'est quand même un très beau voyage que je vous avais proposé. Oui, heureusement, quand même.
Ouais, la semaine prochaine, on va en Russie.
Non, pire, on va en Angleterre la semaine prochaine. heureusement qu'il nous reste quand même pas mal de musique bruyante pour digérer tout ça. Alors montez le son, on se retrouve dans 15 jours sur Cause Commune, 93.1. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre Facebook, réagir à tout ce que vous avez pu entendre, mettre des commentaires si vous voulez. Il y a aussi notre site internet en tapant Tata Poum sur un moteur de recherche. On tombe en premier, vous pourrez écouter nos 67e émission si vous avez le temps. Ah, ciao tout le monde.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.